été heureux de vous voir nombreux pour le second enseignement de mercredi. Enseignement qui va devenir bien entendu une tradition puisque nous allons désormais avoir les enseignements mercredi en dehors de ceux qui font partie du culte de dimanche. On n'arrive pas encore à faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire que commencer à l'heure. On ne voulait pas commencer avec majoritairement les absents, on commence avec les présents. Donc nous avons dit que nous commençons à 18h. Ça veut dire qu'il faut que les uns et les autres fassent l'effort d'être là à 18h. C'est très important. Et je voudrais que les ouvriers sachent que quand il y a un enseignement quelque part, il y a aussi offrande. C'est un minimum. Quand l'Esprit Saint doit enseigner quelque part, au moins au niveau symbolique, il doit avoir des offrandes pour remercier le Seigneur pour l'enseignement et pour les délivrances qui vont avec, les délivrances et guérisons. Vous êtes bien placés aujourd'hui et bien outillés pour savoir que les guérisons, les délivrances ont lieu pendant les enseignements de façon silencieuse et discrète. Et que d'ailleurs, dans la même logique, les grâces sont nombreuses à descendre pendant les enseignements. Bon. J'ai un scoop pour vous qui vient de ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit aujourd'hui. En les coups de 2h, 1h, 2h. Il m'a montré qu'il va déverser les onctions sur vous, sur le peuple.
Amen. Amen.
J'ai déjà vu les onctions descendre sur les gens, mais pas le genre de quantité là.
Amen.
C'était abondant. Il a insisté sur deux points, l'obéissance et la prière. Il a insisté là-dessus, l'obéissance et la prière. Il se trouve que le peuple, de plus en plus, s'intéresse à la parole. Mais il faudrait que les gens investissent véritablement dans la prière et s'impliquent à obéir à la parole qu'ils écoutent. Bon, avec que je me suis levé le matin, le sourire qui allait jusqu'aux oreilles. C'est ce genre d'onction que le Seigneur veut verser, déverser sur le peuple. Bon, comme il est souvent pressé de faire le bien, on peut faire comme ça commence aujourd'hui. Et on voit la suite encore dimanche. Mais même si la vérité, c'est que s'il le fait déjà, il le fait déjà. Quand il annonce qu'il va le faire, c'est-à-dire qu'il va augmenter le débit. Il va augmenter, n'est-ce pas, les grâces, les bénédictions. L'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement assez technique qui relève de l'Esprit Saint, l'Esprit dans l'Ancien Testament. En fait, quand on regarde l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est l'une des trois personnes de la Trinité. On sait que la Trinité a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand on regarde l'Esprit, par exemple, de Marc 1, 11, on sait, par exemple, que lors du baptême de Jésus-Christ, il y a une voix au ciel qui a parlé. Il y a une colombe qui est descendue, symbolisant l'Esprit Saint. Non, les trois étaient là. Le Père a parlé, la colombe représentait l'Esprit Saint et le Fils était humainement présent. Donc, dans Marc 1, verset 11, on a cette symbolique-là. Bon, même si toute la puissance du ministère du Saint-Esprit ne fut pas révélée au peuple avant le ministère de Jésus-Christ, on peut quand même considérer que l'Esprit de Dieu était déjà là et on a des éléments très nombreux qui montrent que l'Esprit de Dieu travaillait déjà avant Jésus-Christ. Quand on veut voir maintenant à quel moment vraiment il s'est répandu, c'est après, à partir du ministère de Jésus-Christ, pendant son ministère et pratiquement plus tard à la Pentecôte. La Pentecôte, on en parle dans Acte 2. On reviendra là-dessus. Mais on va rentrer d'abord dans les passages de l'Ancien Testament qui mentionnent l'œuvre de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Donc, dans cet enseignement, nous allons examiner, l'Ancien Testament au sujet, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. D'abord, il faudrait qu'on tombe d'accord sur la terminologie. En principe, quand on veut développer un sujet, il faudrait qu'on ait les définitions. Parce que quand on parle d'Esprit Saint, il y a une origine. De Saint-Esprit, il y a une origine. L'origine est un mot hébreu. En hébreu, on dit « roi » et « esprit ». C'est un mot que l'on traduit par vent ou souffle. Donc, roi veut dire esprit. Roi, comme vous avez entendu, R-O-U-A-B, ou souffle. Donc, ainsi, les références dans l'Ancien Testament parle du souffle. Bon, je voulais utiliser un terme, mais j'ai préféré dire dans l'Ancien Testament. Parce que quand on parle du Nouveau Testament, vous entendez référence néo-testamentaire. Alors que quand on dit d'Ancien Testament, on dit vétéro-testamentaire. Donc, j'ai préféré d'abord dire Ancien Testament avant de revenir sur les termes techniques. Pour que les gens ne me sortent pas les yeux. Que le père a recommencé à l'agromologie. Donc, c'est ce que ça signifie, littéralement, vent, souffle. On commence par regarder, n'est-ce pas, Genèse 2, le verset 7. On peut lire Genèse 2, le verset 7. On peut aussi lire Ézéchiel 37, le verset 9 à 10. Genèse 2, le verset 7. Ézéchiel 37, le verset 9 à 10. Et là-dedans, le verset 14. Pour que les uns et les autres voient que la notion de souffle et de vent est effectivement biblique par rapport à l'Esprit de Dieu. Mais dites pas que vous allez chercher Genèse.
Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen.
Amen. Quand on prend Ézéchiel 37, le verset 9 à 10, qu'est-ce qu'on a? Ézéchiel est un prophète. Ça fait partie des derniers livres de l'Ancien Testament. Les derniers livres de l'Ancien Testament sont les prophètes. Ézéchiel 37, le verset 9 à 10, ainsi que le verset 14. Oui.
Ézéchiel 37, le verset 9 à 10. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils reviennent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen.
Vous remarquez que quand on parle de l'Ancien Testament et quand on parle de l'Esprit de Dieu, la notion de souffle et de vent est utilisée. Rentrons maintenant dans l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. La Bible apporte le fait que dans l'Ancien Testament, l'Esprit était l'œuvre, en fait, à l'œuvre de diverses manières. Donc il agissait, il travaillait de plein de façons. Première façon, c'est que le Saint-Esprit a participé à la création. Quand vous prenez le deuxième verset de la Bible, le deuxième verset de la Bible, c'est quoi? C'est Genèse 1, verset 2. Le premier verset de la Bible, c'est Genèse 1, verset 1. Le deuxième verset de la Bible, déjà, déclare que l'Esprit se mouvait au-dessus de l'eau. C'est Genèse 1, verset 2. On a lu ça ici la dernière fois, je veux qu'on passe. Vous notez seulement en référence. Préparant ainsi la voie à la parole créatrice de Dieu qui devait former ce monde. La parole de Dieu, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité. L'Esprit se mouvait. Et après, l'Esprit parle. Première personne, l'Esprit. Deuxième personne, la parole. Tout a été fait par cette parole. Rien n'a été fait sans elle. Quand la parole se fait chair, troisième personne. On reviendra là-dessus, mais il faut déjà voir la symbolique. La Trinité n'est pas de la philosophie, c'est une réalité de vie. Et on voit donc, n'est-ce pas, à travers cela que l'Esprit Saint ne peut pas être banalisé. Il était là dès le départ. Il fait partie des agents actifs du processus de création. Donc, l'Esprit est donc lui aussi acteur de la vie. Lorsque Dieu créa Adam, c'est sans aucun doute son esprit qu'il donna au premier homme, le souffle de vie. Lisez un peu Genèse 2, verset 7. Vous lisez aussi Job 27, verset 3. Genèse 2, verset 7. Job 27, verset 3.
Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen.
Amen. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est quoi? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a été soufflé. C'est pourquoi quand on a compris cela, on sait que notre corps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on doit traiter au hasard. On les traite ainsi, on a des enseignements spéciaux pour que les uns et les autres soient à l'aise et comprennent cela. On aura un autre enseignement qui nous permettra de travailler spécifiquement sur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et vous verrez que, de toute façon, Jésus-Christ réellement, en tant qu'être vivant, acteur, présent, n'apparaît pas au Nouveau Testament. Il est là déjà depuis. Vous avez déjà eu un passage ici où il dit clairement qu'avant Abraham, je suis. Donc, on reviendra là-dessus. Donc, le Saint-Esprit continue non seulement à donner la vie, mais également à soutenir la création. On peut lire le fait que le Saint-Esprit soutient la création dans Job 33, verset 4, et le psaume 104, verset 30. Job 33, verset 4, psaume 104, verset 30. Vous pouvez lire les deux passages.
Job 33, le verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime.
L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, l'Esprit Saint participe à la création et entretient la création. Il participe à la vie et entretient la vie. Que dit Job, psaume 104, le verset 30?
Psaume 104, verset 30, il est écrit: tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Amen.
Amen. Deuxième compartiment de l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint est monté, il s'est montré particulièrement actif dans la communication du message de Dieu à son peuple. C'est lui, par exemple, qui a instruit les Israélites dans le désert. On peut lire, toi jeune fille, Néhémie 9, trouve Néhémie 9, verset 20. C'est lui qui a instruit les Israélites dans le désert, Néhémie 9, verset 20. C'est par lui que les psalmistes d'Israël ont chanté leur cantique.
Néhémie 9, verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Amen.
Amen. Lisons maintenant ce qui est dans 2 Samuel 23, le verset 2. Parce que certains ne réalisent pas que tout ce qui est fait par les prophètes est inspiré directement par l'Esprit Saint, qui est dans un esprit très actif. C'est lui-même qui est derrière les psaumes de David. Il faut bien comprendre cela. Ce n'est pas par l'intelligence que David a écrit les psaumes. Ce n'est pas par l'intelligence humaine que David a écrit les psaumes, mais plutôt par l'intelligence de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, afin d'aider les générations présentes et futures à entretenir leur relation avec Jésus-Christ et avec le Dieu créateur. 2 Samuel 23, le verset 2.
2 Samuel 23, verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Amen.
Amen. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Interprétation. Dieu m'utilise, je suis un instrument pour Dieu. Je suis un instrument que Dieu utilise pour parler aux autres. Est-ce que ça signifie? Et qui m'utilise? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, de même, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les prophètes ont proclamé la parole de Dieu au peuple. Là, on peut avoir beaucoup de références. On ne va pas lire ça. Vous prenez les références. Nombre 11, 29. Nombre 11, 29. 1 Samuel 10, verset 5 à 6. Nombre 11, 29. 1 Samuel 10, verset 5 à 6. 2 Chroniques 20, 14. 2 Chroniques 20, 14. Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Selon Ézéchiel, l'une des preuves qu'un homme était faux prophète était qu'il suivait son propre cœur, avant de, et non l'Esprit de Dieu. Avant d'aller au niveau d'Ézéchiel, lisons un peu ensemble Ésaïe 61, verset 1 à 3. Cela va vous rappeler quelque chose. Là où les prophètes, Dieu utilise les prophètes pour parler à son peuple. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il écrit dedans? Micro pour elle, s'il vous plaît.
Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen.
Amen. C'est ce passage que Jésus-Christ va lire à Nazareth. Parce que Ésaïe passe 600 ans avant Jésus-Christ, annonce l'arrivée de Jésus-Christ. C'est quand Jésus-Christ lit ce passage qu'il dit que ce passage, ce passage de la parole des Écritures est accompli. Ésaïe a annoncé, il fait partie des multiples prophètes qui annoncent l'arrivée de Jésus-Christ. Bien entendu, ce n'est pas avec son intelligence qu'il pouvait faire ça. C'était tout simplement que l'Esprit Saint l'utilisait pour annoncer les choses futures au peuple, le libérateur qui devait arriver. Donc, c'est un passage parmi tant d'autres. Ézéchiel avait déjà réfléchi sur la question des faux prophètes, toujours grâce à l'Esprit Saint. Il savait qu'un vrai prophète n'est pas quelqu'un qui fait les choses selon son propre cœur, mais il fait les choses selon l'Esprit de Dieu. La question est déjà abordée dans l'Ancien Testament. Parce que la question existe déjà. Lisez un peu ce qui est écrit dans Ézéchiel 13, verset 2 à 3. Ézéchiel 13, verset 2 à 3.
Ézéchiel 13, verset 2 à 3. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Amen.
Amen. Donc, Dieu voit qu'il y a des gens qui sont prophètes. D'abord, ils sont prophètes, on ne sait pas comment. Et puis, ils disent les choses avec leur propre cœur. Il leur envoie un message par un vrai prophète. Que malheur à ceux qui font les choses selon leur propre cœur. Ils sont des insensés. Malheur parce que le châtiment divin les guette, s'ils ne se repentent pas. Bon, il faudrait aussi remarquer que l'Esprit de Dieu pouvait fort bien venir sur un homme qui n'avait pas juste une relation avec Dieu, n'avait pas une bonne relation avec Dieu, parce que c'est aussi une chose possible. Lorsque vous êtes un croyant, que vous comprenez la marche avec Dieu, il faut faire attention. C'est vrai dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans le Nouveau Testament en réalité. Et c'est vrai aujourd'hui. Vous vous rappelez du problème que certains apôtres ont eu, les disciples de Jésus-Christ, ils sont allés en mission d'évangélisation, guérison, délivrance, ils ont trouvé quelqu'un qui traitait les malades. Mais, il a dit qu'en dehors du fait que Jésus-Christ était là, il n'y avait pas d'autres personnes que Dieu utilisait. Dieu a toujours eu des gens qui l'utilisent. Que la forme vous plaise ou pas, même parmi les athées, en fait, ceux que vous qualifiez d'athées, il y a des gens que Dieu utilise. Même parmi ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc il faut avoir un peu de recul, un peu de discernement, un peu de bon sens, un peu de mesure pour faire attention à ce genre de choses. Dieu peut utiliser quelqu'un. Je vous ai déjà dit ici, je pense ici, que mais Dieu peut envoyer un message sur toi par un fou. Tu passes. Je vous parle des cas pratiques, ceux qui sont là arrivés aux gens. Le fou là te parle à l'instant où tu es en train de passer. Ça ne dure pas 10 secondes. Dieu l'utilise pour te transmettre un message précis, ponctuel et même urgent. Tu vas dire que mais, le fou n'a pas de bonne relation avec Dieu. Et toute la folie qu'il fait là, il mange toutes les mauvaises choses là. Pourquoi le fou peut me parler? C'est quoi? On t'a dit que c'est la philo. Dieu a toujours fait ça. Il est le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui décide du comment, du pourquoi, de où, de quelle méthodologie pour résoudre un problème. Parce que son souci est toujours de résoudre les problèmes de ses enfants. Si son enfant est dans un égarement, il faut utiliser toute personne susceptible de transmettre le message. Beaucoup de gens ici dehors, Dieu leur parle à longueur de journée, ils refusent d'écouter. Il y en a qui commencent quand même à faire attention en disant que vraiment, envoyez. Ce que tu dis là, on m'a déjà dit ça au moins 20 fois. Hein. Ah, les autres qui disaient là, comment ils ne t'appellent pas envoyer? Ils ne méritent pas d'être écoutés. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on vous dit. Il faut écouter. Pour que Dieu utilise quelqu'un en ta faveur, la personne n'a pas à être un saint ou une sainte. Et quand tu vas regarder comme ça, tu vas dire, oh, Sainte Marie. Mais ce sont vos saints, non? Il y a les Saintes Marie. C'est bien. J'ai déjà eu à vivre deux ans de situation. C'était un monsieur, un homme d'à peu près 50 ans là-bas, en route, lui parle de moi. Et l'homme là voulait juste le motiver à travailler beaucoup sur mes dossiers. En plein jour, en plein 16 heures, dans un grand carrefour. Et dès que le grand-père qu'on appelle Guy Parfait Songhai, quand il fait ces choses, traite ça à être sérieux. Il réplique en disant que comment tu peux dire grand-père? Guy Parfait pourrait être mon fils. Il dit c'est un grand-père. Le monsieur là m'a cherché, il tremblait de tout son être comme ça. Il me dit, tu es qui? Il dit que je ne comprends pas de quoi tu parles. Il dit qu'un inconnu m'a abordé. Il m'a dit que quand je traite tes affaires, je dois traiter ça le plus grand sérieux. Et il dit que tu es un grand-père. J'ai répliqué en disant que grand-père comment? À mon âge, je pourrais avoir un enfant de l'âge. Je dis, papa, il dit c'est un grand-père. Comme ça, tu vois toutes les choses physiquement. Dieu utilise tellement d'astuces. Tu peux être même dans l'insecte. Dieu veut te faire sortir à la secte. Mais il va trouver les moyens les plus inattendus pour que tu sortes de là. Tu peux mettre un sorcier pratiquant, engagé, corps et âme, comme disaient les autres. Quand Dieu dit que tu dois sortir à la sorcellerie, il va utiliser les moyens les plus inattendus. Donc ce n'est pas nécessairement qu'il va chercher les personnes qui sont les plus représentatives de la sainteté à tes yeux. Dieu peut utiliser... Il peut utiliser quelqu'un qui n'a même pas une relation juste avec lui. C'était au passage cela. Parfois vos parents vous parlent, frères et sœurs, mais vous estimez qu'ils vous dérangent. Parfois c'est une copine ou un voisin, vous estimez qu'on vous dérange. Et pourtant c'est Dieu qui lui a dit, dis-lui telle chose. Moi-même qui suis en train de vous parler, j'ai été champion de ne pas entendre que c'est Dieu qui me parle. Donc, vous avez remarqué que moi je parle toujours en connaissance de cause. Voilà. Donc il est très important que vous sachiez cela et ça va être très important pour que vous compreniez que Dieu utilise tout pour transmettre un message vrai au peuple de Dieu. Cela est répertorié dans l'esprit de Nombre 24, verset 2. Troisième élément de la manière dont l'Esprit Saint agit dans l'Ancien Testament. Sous l'Ancienne Alliance, tous les conducteurs spirituels du peuple de Dieu étaient des hommes qui tiraient leur force de l'Esprit de Dieu. Moïse en est un bon exemple. Moïse est même l'un des exemples, puisque Moïse était, il avait une mission très spéciale. Donc, c'est un exemple très facile. Il ne faisait qu'un avec l'Esprit de Dieu. Ce qui lui permettait de partager le sentiment de Dieu, ainsi de souffrir quand Dieu souffre, et de ressentir la même colère que Dieu. Quand Dieu ressentait une certaine colère à l'égard du péché. C'est-à-dire que Moïse était capable de réagir exactement comme Dieu aurait réagi en une circonstance. Ses sentiments étaient les sentiments de Dieu. Il était rempli de l'Esprit Saint. Ce n'est pas que quelqu'un a le don de prophétie, qui titube même encore, qui essaye, marche un peu, tombe, marche encore un peu, tombe, que je suis rempli de l'Esprit Saint. Pause, s'il te plaît, laisse comme ça. Entre Moïse qui était rempli de l'Esprit Saint, et toi, c'est que le don de prophétie éternue de temps à autre là. Tu ne vas pas dire que toi aussi, tu es rempli de l'Esprit Saint. Non, je commence par Moïse, c'est éternu seulement. On sent que Dieu est passé par là. Et puis, silence radio. Entre les interférences, les attaques, les confusions de pensée et tout ça. Après, on va dire, je commence par Moïse, parce que si on commence par Moïse, certains ne vont pas comprendre. On dit que Jésus-Christ était rempli de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul était rempli de l'Esprit Saint. Pierre était rempli de l'Esprit Saint. L'envoyé est rempli de l'Esprit Saint. Toi aussi, tu es rempli de l'Esprit Saint. Et que... Coucou! Et c'est nous faire souffrir. L'Esprit Saint te parle. Il a du mal à se stabiliser. L'une des choses qui montre qu'il a du mal à se stabiliser en soi, c'est que tu souffres chaque fois qu'il est là. Vous n'êtes pas encore au stade, ami, ami, où sa présence ne te perturbe pas. Sa métamorphose n'est pas encore finie. Mais il faut que quelqu'un s'occupe de vous dire ça. Sinon, vous allez commencer à gonfler comme le tapioca. Alors que vous ne savez pas qu'il y a un gros travail derrière. Il y a tout un processus de métamorphose. Hmm? Donc, faites attention. Pour arriver à avoir un tel niveau de connexion, parce que moi j'ai été négligent, c'est ce que le Père me rappelle ça. Quand vous avez déjà une certaine relation avec l'Esprit Saint, vous êtes capable de ressentir ce que lui pense sur un sujet précis. Parce qu'il est en vous. Et il commence donc à vous transmettre ses propres émotions, ses propres sentiments sur les situations. Mais si vous êtes loin de lui, vous ne ressentez rien. Je vais vous donner un secret tout de suite. Pour quelqu'un qui est vraiment dans la prière, dans les louanges, adoration, lecture de la parole, etc., la pratique de la justice, le respect des préceptes divins, l'un des indicateurs majeurs pour ressentir ce que l'Esprit Saint pense sur un sujet, c'est de ressentir si vous êtes d'accord avec... C'est très simple. Si, par exemple, je veux prendre un CD, je sens une résistance en moi, c'est que Dieu ne veut pas que je prenne le CD. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. Vous comprenez ce que vous dites? Je veux voyager. Je sens que je veux voyager. Même si on comprend pas, Dieu dit que voyage, tu vas comprendre après là-bas. Moi, il m'a déjà fait ça plusieurs fois. C'est vrai que j'ai appris à reconnaître quand il est d'accord, quand il n'est pas d'accord, sur un tas de choses. Au bien entendu, si tu n'es pas concentré, tu peux aussi te tromper. Tu peux confondre tes propres convoitises et dire que oh, c'est délicieux là, c'est que même Dieu aussi veut ça, hein? Comme je veux la glace, la glace. Qui t'a dit que l'Esprit Saint veut la glace au chocolat que tu as visé là-bas? Mais, pour nous qui avons le feu et la lumière, effectivement, on peut arriver à ce stade où on ressent ses émotions, on ressent ses désaccords. On a des situations simples. J'ai eu la grâce de m'énerver ici une seule fois. Je m'énerve jamais. Tout le monde est témoin que je m'énerve jamais. Une seule fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu ce exprimer l'énervement du Père. Donc, ce sont des situations que vous pouvez vivre. Il y a des situations devant lesquelles vous réagissez. C'est ce qu'on appelle une colère sainte. Une colère sainte. Ce n'est pas votre colère, c'est la colère de l'Esprit Saint. C'est différent de votre colère que Dieu ne veut pas accepter et qu'il ne peut même pas accepter. Mais si c'est l'Esprit Saint qui se fâche en vous par rapport à quelqu'un, éloignez-vous de la personne-là. Éloignez-vous. Le dossier-là n'est pas bon. Et puis ici dehors, tous les indicateurs te montrent que le gars là sort de là. Laisse-le, oublie. Tu ne veux pas. Quand tu ne veux pas, l'Esprit Saint commence à te mettre en colère chaque fois qu'il appelle. Chaque fois que tu penses même à lui. Quand il est là, alors c'est grave. Ton humeur se gâte. Elle ne veut pas comprendre. C'est Dieu qui est en train de dire que ça suffit comme ça. Go for Shidon. Va ailleurs. Donc. Il faut comprendre les choses comme ça. Donc ne voyez pas simplement dans le passé que Moïse avait les émotions, quelqu'un capable de ressentir les émotions de Dieu, non, vous-même. Puisque l'Esprit Saint est disponible, on va revenir là-dessus, vous allez voir, il est disponible, c'est déjà écrit. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, c'est écrit, c'était prévu. Apprenez à ressentir les émotions de Dieu. Quand la chorale chante là, que vous ressentez la joie vous envahir, vous résistez, pourquoi? C'est la joie de l'Esprit Saint qui est en vous. Quand Christian commence souvent, il y a des gens ici qui savent allumer mon cœur. Bang! Ils font ça instantanément. Si Michael commence à chanter, même si je suis couché là-bas dans la maison, que je suis laissé un peu penser, quand il chante seulement sa voix, il dit, mon fils vient de commencer les vraies choses. Dès que Christian touche le piano, il dit que, il y a une sensation particulière. Où est ma fille là que on ne voit pas? Sa foi est où? Il y a aussi elle, parfois, j'aime quand j'entends ça, bang, elle dit, oh là là, cette voix est unique au milieu des autres. Donc, c'est la joie de l'Esprit Saint que vous ressentez. Il y a des choses, quand elles sont belles, elles ne sont pas belles seulement pour vous. Vous croyez que Dieu ne sait pas ce qui est beau. Le bien est bien. Vous-même, quand vous avez mauvais goût, il faut vous poser des questions. Il faut vous demander si Dieu est avec vous. Quelqu'un qui peut avoir l'Esprit Saint et qui va au Père Macala pour commander seulement les beignets croustillants, il faut quand même se poser des questions sur sa relation avec Dieu. Le beignet est tout rond en temps normal, il l'a mis dedans. Tout doux. Toi, tu achètes, tu reviens réclamer seulement les beignets dans la fabrication à rater. Il faut quand même se poser des questions sur ta santé. Tu payes pour le mauvais service. Tu viens au Pélé. Hé, hey, ma mère, je vais seulement les beignets croustillants. C'est-à-dire, je paye pour le mauvais service, je paye pour les beignets dans la fabrication à rater. Donc, je ne réclame que ce qui est mauvais. L'esprit, c'est un peu craché, les beignets là. Hein. Donc, vous voyez les gens d'infimité que vous avez développé, vous dites que vous marchez avec Dieu. S'il y a des gens ici, c'est pourquoi ça touche les gens, parce que je les vois déjà sur leur face. Ils ne connaissent pas le bon pain. Le bon pain, ils ne savent pas ce que c'est. Le pain pour eux ne doit pas avoir de mie. Donc ils prennent le pain comme ça, ça doit être transparent. Ils voient le soleil de l'autre côté. Quand vous allez arriver à un certain niveau dans la relation avec l'Esprit Saint, vous allez vous rendre compte qu'il y a même des choses qui n'acceptent pas que tu manges. Oui, mais c'est ça. Si tu es capable de ressentir ses émotions, il va dire, comme il a dit à ma fille un jour ici, comme ça, tu me fais seulement manger à mauvaise. Mais puisque tu crois que c'est ton corps, jusqu'à ce que tu réalises qu'il est là. Que comment tu me nourris mal comme ça? Tu te slams pour dire que comment lui, il peut dire que c'est moi. Quand je mange, comment c'est lui qui mange? Mais il te dit que je suis dedans. Je suis en toi. Qui t'a dit que le corps là t'appartient? Donc quand tu t'habilles Njaklandjouklou, là aussi, il te dit que mais comment tu m'habilles mal comme ça? Donc ces choses-là, vous devez les connaître, ça va vous aider. Attendez, vous n'avez pas encore compris l'affaire là. Ceux qui sont dans la marche avec Dieu arrivent toujours à ce niveau. C'est que Dieu s'occupe de petits détails. Je dis petits. La taille des ongles, le temps de chaussures, genre de chaussures, les sous-vêtements, etc., ta coiffure, tout ça. Les femmes ne savent pas. Hein? Moi, je vois des femmes ici un jour qui, quand elles s'habillent comme ça, elles vont mettre un mauvais string, le string, ça dit qu'enlève le string là-dedans. Comment tu m'habilles mal comme ça? Toi-même, tu vois que ça correspond. Change de tenue. Mais c'est tant que vous n'êtes pas arrivé à cette tenue, vous ne comprenez pas que Dieu n'est pas loin de vous. C'est ça, c'est fait. Il y a une fusion. Celui qui reçoit l'Esprit Saint, c'est quoi? Il reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se connecte à son esprit. Il y a donc un niveau de communication. Il y a l'intuition qui grandit. Et il y a donc la conscience. On est dans l'esprit. Hein? C'est quoi la conscience? C'est la conscience de Dieu en toi. Blague alors. Je vous donne les références, on passe. J'aime donner les exemples contemporains. Comme ça, vous allez lire la Bible après, vous allez comprendre. Prenez Exode 32, le verset 19, qui parle de la colère de Moïse. Ça, c'est une situation, mais c'est la colère de Dieu. La colère de Moïse face au péché. Donc, lorsque, par obéissance, Moïse a choisi 70 anciens chargés, n'est-ce pas, de l'aider à diriger le peuple de Dieu, il a pris de l'esprit qui était sur lui. Et il a déposé sur les anciens. Alors, ça c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on vous a déjà donné un enseignement là-dessus, sommairement. Pour que Moïse prenne sur lui ou déposer sur les anciens, ceci n'est possible que parce que Moïse est un réservoir d'onction. Vous comprenez ce que je dis là? Voilà, dans un ministère, vous avez un berger. Si c'est un prophète ou un apôtre, ce sont des réservoirs d'onction. Vos dons sont tirés de lui. L'Esprit Saint est rempli chez lui. Tout ce qui s'allume chez vous, en fait, est déjà chez lui. C'est ça le processus. Sinon, on va prendre nous. Le déclencheur, ce sera quoi? Que ça va, ça va passer par le manguier. Là, il faut bien un réservoir de proximité quelque part. Comme ça, Dieu prend il met chez toi. Ça ne diminue en rien ce que lui a. Dieu prend, il met. Il est là, il est un réservoir pour ça. Le ministère doit grandir. Vous devez grandir en Christ et c'est à travers la relation à l'Esprit Saint. Donc, vous prenez Nombre 11, verset 16 à 17, qui explique comment ça s'est passé avec les 70 anciens qui devaient prêter autour de Moïse par le soutien de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu qui avait été déposé chez eux aussi. De même, lorsque Josué a appelé à succéder à Moïse, à la tête du peuple d'Israël, Dieu lui a fait savoir que l'Esprit serait sur lui. Ce n'est pas toi qui décides que l'Esprit est sur toi, c'est l'Esprit qui décide d'être sur toi. Si tu viens, tu commences à dire que pourquoi lui? Toi, tu sais qu'on t'a fabriqué comment? Ton programme, c'est quoi? Pourquoi Josué? Pourquoi Jean? Pourquoi Daniel? Dieu a décidé pour un ensemble de paramètres que tu ne connais pas. Tu ne sais pas quels sont les examens qu'on passe chez Dieu. Tu ne sais même pas ton identité chez Dieu. Tu ne sais même pas le plan qu'il a pour toi, etc. Donc tu n'as pas à discuter à place de l'autre parce que chacun est mandaté selon le plan intime de Dieu et selon sa souveraineté à lui. Moïse s'en va. Dieu a déjà dit quel est son remplaçant. Et a choisi Josué. Donc l'esprit d'autorité, de sagesse, de discernement, de puissance qui était chez Moïse est transféré chez Josué par rapport au mandat de Josué qui est très différent du mandat de Moïse. Moïse avait un mandat de délivrance d'un peuple. Les types d'onction, parce que là, qu'il me soit permis d'utiliser le langage technique, les types d'onction dont Moïse avait besoin, Josué n'en a pas besoin. Josué a besoin d'onction sous le management et quelques autres éléments. Moïse avait besoin d'onction de domination. D'un autre rang d'ailleurs. Avec des dimensions de matérialisation de la puissance. Des dimensions de gloire. Josué n'a pas les mêmes besoins de... Donc, ce n'est pas le même mandat. Mais c'est toujours l'Esprit de Dieu qui travaille. Si on dit que celui-ci prépare la fête. Après la fête, il faut gérer la maison. Toi, tu dis qu'il faut qu'on te donne le dispositif qui est indispensable pour la préparation de la fête. Comme ça, toi, tu vas faire la fête tous les jours. Mais est-ce que c'est le même sujet? Moïse devait être l'instrument humain, pour le dire comme ça, qui permet de sortir le peuple qui était en captivité depuis 420 ans. 420. En captivité en Égypte. Peuple d'Israël. Quand le peuple arrive maintenant à la porte de Canaan, la terre promise, Dieu montre la terre promise à Moïse. Il a lui à seulement montré. À cause d'une erreur que Moïse avait commise, ça lui a coûté cher. On lui a dit qu'il n'entrera pas à Canaan. Il y a un même moment, j'ai oublié quel passage, le diable a voulu récupérer les ossements de Moïse. Il y a un ange qui est descendu là-bas à grande vitesse qui a pour lui dire que donne touch. Donc c'est un mandat différent, mais c'est toujours le même esprit, c'est l'esprit de Dieu. La mission est différente. Quelqu'un qui a le don de prophétie n'a pas le même besoin que celui qui a le don de parler en langue, n'a pas le même besoin que celui qui a le don de sagesse, n'a pas le même besoin que celui qui a le don de guérison, n'a pas le même besoin que celui qui a le don de délivrance, etc. etc. Et même si vous avez tous ces dons, et que vous n'êtes pas berger, vous n'avez pas le même besoin que le berger. Donc, chacun se met bien à sa place. Il faut s'aligner sur ce que l'Esprit de Dieu veut que vous soyez. Donc, par rapport à cela, vous pouvez lire Nombre 27, le verset 18. Nombre 27, le verset 18.
Nombre 27, au verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Amen.
L'Éternel dit à qui?
À Moïse.
Que prends Josué, tu poseras ta main sur lui. C'est pour faire quoi? Transfert d'onction. Bon, comme il y a les gens qui font la prostitution spirituelle ici, ils sont toujours en train de... Oui, c'est comme ça. Dieu appelle ça la prostitution. Ce n'est pas mon invention. Ils sont toujours en train de chercher les hommes de Dieu plus puissants que les autres. Ça fait qu'ils cherchent... Non, peut-être que le prophète tel a plus de puissance que le prophète tel, que l'apôtre tel. On t'a dit que c'est ça. On t'a dit de travailler toi-même. Non, tu cherches le raccourci. S'il y a un prophète qui peut lever la main comme ça, il détruit ses adversaires plus vite que l'autre. Ça change quoi dans le problème de fond? Dieu a dit qu'il faut que tu travailles dans ta relation avec lui. Donc, il y a des gens qui sont dans ce genre de position, ils ne comprennent pas que ce n'est pas n'importe qui doit poser sa main sur vous. Hein. Oui, ça que vous tendez la tête partout là que pose. Ça va vous anéantir sans savoir ce qui vous arrive. On le doit pas, c'est pas n'importe qui doit faire l'imposition de main sur vous. Il y a des gens qui en vont dans des séminaires, des croisades, ils viennent de là-bas avec comme principe premier, nouveauté désormais, repas nocturne, couche de nuit, poursuite nocturne. Ils viennent de la croisade, l'essentiel des manifestations post-croisade, c'est les poursuites nocturnes, les couches de nuit, etc. Ils restent dedans. On lui a imposé les mains. Qui t'a imposé les mains? Quelqu'un que le diable utilise, lui-même, il n'est pas au courant. Les gens, les personnes qui, quand ils commencent à faire les délivrances, le démon lui demande que toi, tu penses même que tu es qui? C'est même pas toi qui étais la femme du voisin hier. Donc, quand tu finis de boire les golabla, 30 ans, les 30 ans, non, mais même pas des choses qui arrivent souvent. Si tu n'es pas bien, hein, Dieu. Que tout clair là. Le démon voit aussi l'invisible. Tu vas cacher quoi au démon? Il dit que, on a eu ça ici. Moi, je me rappelle quelqu'un qui était ici à l'époque. Il a voulu faire une délivrance. Le démon, il dit que, là, tu n'as pas fini les vieilles hier. Toi, tu penses que tu vas venir me chasser. Tu as fini les vieilles hier. Le transfert d'onction, le transfert d'autorité que Moïse fait. Tu es instruction de Dieu, ce n'est pas une affaire qu'on fait comme ça. Bon, comme je cherche les puissants, je ne vais pas tendre ma tête aussi partout. Il y a, oui, je fais, oui, il faut qu'on me mette aussi la main sur la tête. Vous ramassez les malédictions. Et je vous parle comme ça parce que j'ai vu de tout là en 2016. Chaque fois qu'on invitait quelqu'un ici, il partait avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Denis est venu, il est passé, les gens. N'importe qui est venu, il est passé. Il y a des gens qui disent, mais gars, tu m'as rempli nos diables, il faut que l'homme la me touche. Absolument, c'est urgent. Ça fait que j'ai certains de mes enfants, quand ils arrivent là-bas, d'autres se cachent. On ne doit pas savoir qu'ils sont dissidents. Que c'est moi qui vais aller te chercher. Va où tu vas. C'est que le ministère, si Dieu va tellement se glorifier que les gens vont revenir en courant. Même si c'est en étant en dans la honte la plus totale. Même si c'est pour faire, ils vont chercher les introductions que je me mets d'abord à genoux depuis le portail. Là-bas. On va voir que je me suis humilié. Je ne pourrais pas savoir avant. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez même pas ce qu'il y a ici. Si vous avez sorti plein de versions, vous savez pas que j'avais aussi l'autre version là dans le ventre. On fait un transfert dans ce secteur. C'est Dieu qui dit que pose la main sur l'autre. Parce qu'il sait que quand tu vas poser la main, il t'utilise. Toi qui es le réservoir d'onction. Toi qui es Dieu pour les hommes. Pour transférer l'esprit de Dieu chez lui. Voilà les conditions dans lesquelles l'imposition de main a son sens. Il faut avoir l'autorité de Dieu pour poser la main. Les autres donnent main à la tête partout que imposer la main, poser la main, poser la main. Il y a d'autres même qui sont plus forts. Pour apprécier l'envoyé, ils s'en vont chercher quelqu'un qui a, on appelle ça super administratif, N-4. Ils s'en vont consulter le pasteur. Pasteur, il y a un gars là qu'on appelle l'envoyé. Tu peux voir si c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Je parle de ce que vous faites dans ce ministère, non? En dessous de l'envoyé du créateur, il y a les apôtres. C'est-à-dire, les apôtres, d'abord, c'est le plus haut niveau. En dessous des apôtres, vous avez les prophètes. En dessous des prophètes, on a l'évangéliste. En dessous de l'évangéliste, c'est là où on trouve le pasteur. Mais il faudrait que le pasteur soit sur la bonne route. Mais c'est là où les gens vont consulter. Pasteur, pasteur, il y a un gars là-bas qu'on appelle Guy Parfait Songhai. Je le trouve suspect. Je vais souvent dans ces choses-là, mais il est possible qu'il puisse devenir franc-maçon parce que le gars a grandi trop vite. Il doit avoir mis la main quelque part. Mais il dit ça parce que vous avez reçu les messages, vous n'avez pas voulu me dire. Moi, je suis court, recevoir les messages, j'ai regardé aussi la vérité dans mon vase. Les gens m'ont consulté. Le pasteur a dit, mais oui, moi-même j'ai vu. Ce gars est dangereux, il a changé de couleur devant mes yeux. Le problème que vous avez avec moi, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer jusqu'à quel point Dieu me parle de choses qui sont dans vos vies cachées là où vous croyez que je ne sais pas. Le commandement va être l'information. Dieu étant le plus grand commandeur, le roi des rois, il sait ce que c'est que la gestion d'information. Donc il ne peut pas donner le commandement à quelqu'un, il ne lui donne pas les informations. J'ai les informations qui entrent dans mon esprit en temps de veille comme en temps de sommeil. Fian, 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 je reçois de tous les côtés. L'autre a gardé ça dans mon ventre depuis 2 mois. C'est sorti aujourd'hui parce que l'enseignement m'a poussé par là-bas. Donc, cessez de tendre les têtes partout que bénis-moi, bénis-moi. Impose-moi les mains. Peut-être que tu as plus d'onction que mon père.
C'est l'ignorance.
L'ignorance, c'est terrible. Hein? Donc, je passais par là. Mais un jour, et ça va arriver ici, quand le Seigneur va me dire, ce n'est pas loin, verse l'huile d'onction sur tel, sur tel, sur tel. Je vais lever la main, il va caler ma main, parce qu'il dit que celui-ci ne verse pas. Il dit que papa, quand tu arrêtes ma main, je ne verse pas. C'est toi qui as dit, tu m'as consulté. J'ai dit, ok, j'ai compris. Il y a des gens bipolaires, tripolaires, quadripolaires, ils ont tellement de paix spirituelle. C'est un quintapolaire, tout ça. Mais c'est la prostitution. C'est de la prostitution spirituelle. Et ça, ça montre que vous refusez de recevoir les enseignements fondationnels qui vous permettent d'être forgés. Ceux de l'investissement personnel dans la marche avec Dieu, de l'autonomie dans la marche avec l'Esprit Saint, de l'autonomie dans la relation à Christ. Vous attendez les bénisseurs. Tiens, m'a appris un jour que l'un des bénisseurs a dragué une de mes filles spirituelles. Elle est partie de là-bas en courant. Mais c'est vous qui allez vous livrer, non? Et quand vous livrez, les gens ont les yeux ouverts, ils commencent à voir les choses. Que... Comme ça que vous allez ramasser les problèmes alors que vous étiez en paix ici. Comment?
C'est dû pour le transfert.
C'est dû pour le
transfert. C'est dû. On fait partie du transfert.
Vous ne saviez pas que je savais. J'ai alors parlé. Donc, en fait, Moïse a fait cela. Le même esprit est descendu sur Gédéon. Le même esprit sur David. Quand vous prenez l'esprit de 1 Samuel 16, verset 13, vous voyez que David a été saisi. Le roi David. David était roi et prophète. Enseignement, s'il commence à être délicieux, quand il regarde le temps, c'est pas grave, on va faire le temps. David était roi et prophète. David ne gouvernait pas comme un homme ordinaire. David était toujours en permanence en train de se préoccuper de savoir comment il faut faire les choses selon l'esprit de Dieu. Et Dieu a aimé David. C'est que vraiment, quand vous regardez les hommes, Dieu a aimé David à cause de ce que. Tu vas lui dire, mais comment David avait organisé un meurtre? Comment il est? Tu sais que David, l'alliance de David avec Dieu, c'était quoi? Et quel est le niveau d'engagement, de don de soi que David avait dans la marche de Dieu? Et quel est le niveau de compréhension que David avait dans la marche avec Dieu? David avait donné tout son être dans le service à Dieu. Il s'en préoccupait. Quand il y avait une menace, il disait seulement au Père que si tu veux, ne punis pas le peuple, punis-moi. Regardez le niveau là. Mais un roi peut être lâche, il dit que non, puis les autres, moi je ne veux pas avoir de douleur. Et il dit que non, vraiment, si moi j'ai commis une erreur, ne fais de mal à personne d'autre qu'à moi. Punis-moi. Sans vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce qu'on appelle Jésus-Christ fils de David? David passe combien de générations dans Jésus-Christ?
Il n'avait pas son grand-père là. Il y a 15 à 17 générations entre David et Jésus-Christ. Mais regardez le niveau d'amour que Dieu avait pour David. Pour que son fils, on l'appelle fils de David. Mais pourquoi il était si important? Parce que l'Esprit Saint l'utilisait pleinement. Et il savait quoi ça? Que quand il faut danser pour Dieu, il danse de tout son être. Il se roule par terre, il n'y a pas de problème. Il fait le bal à terre. On ne cherche pas les exemples, laisse comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui lui transmettait cette joie. Alors, vous avez l'exemple de David avec 1 Samuel 16, verset 13. Vous avez Zorobabel, Zacharie 4, 3. Autrement dit, l'une des qualifications requises pour être un conducteur spirituel dans l'Ancien Testament était de jouir de la présence de l'Esprit de Dieu. Sinon, comment est-ce que ce serait impossible? L'une des qualifications dans l'Ancien Testament pour être un conducteur spirituel, c'est que vous jouissez de l'Esprit de Dieu. C'est après Jésus que ce qu'on appelle Esprit Saint, mais c'était déjà l'Esprit de Dieu. Le souffle, le vent, le feu, etc. Quatrième dimension de l'expression Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu pouvait également descendre sur des individus afin de les équiper en vue d'un service particulier. Et là, c'est très intéressant. On voit ça dans l'ancien temps. On voit ça ici. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire à l'époque de Moïse, j'ai quelque chose à vous montrer, c'est vraiment intéressant. Nous trouvons l'un des exemples les plus remarquables de cette réalité en la personne de Joseph, que Dieu a revêtu de son esprit et qui puisse intégrer avec efficacité le gouvernement de Pharaon. Vous vous rappelez de Joseph que ses frères avaient vendu, non? Il s'en va là-bas, il est dans les chaînes, tout ça. Quand Dieu décide maintenant, c'est fini. Il doit se mettre à la lumière. Le Pharaon a des visions, il n'y a pas d'explication. Il n'y a que Joseph à qui l'Esprit de Dieu a parlé, a donné la vraie signification. Récompense sous le contrôle de l'Esprit Saint. Joseph est nommé gouverneur d'Égypte. Il a le commandement, il est le numéro 2 en Égypte. Donc c'est un exemple très intéressant. Pour trouver cet exemple, vous prenez Genèse 41, le verset 38. Vous en faites pas beaucoup lire là-bas aujourd'hui parce que je ne veux plus faire les démonstrations. Mais prenez les références. Nous avons également Bezalel et Oaliab que Dieu a rempli son esprit, les rendant ainsi capables d'exécuter toutes sortes d'ouvrages en relation à la construction et la décoration du tabernacle. Ils ont également été enseignés. Ils ont pu enseigner aux autres. On est en train de parler de quelle période? Moïse a des collaborateurs. Il y a des choses à faire pour Dieu. Et l'Esprit Saint descend sur certaines personnes pour les spécialiser. Il y a des gens qui deviennent forts pour fabriquer, traiter le bois. D'autres deviennent des ingénieurs. Certains savent faire les briques, etc., etc. Il faut voir ça dans cet esprit-là. Donc, pourquoi vous trouvez les références qui vous permettent de voir comment l'Esprit Saint peut spécialiser les gens, même sur les choses matérielles, le travail? Prenez Exode 31, le verset 1 à 11. Exode 31, le verset 1 à 11. Et Exode 35, le verset 30 à 35. Exode 31, le verset 1 à 11. Exode 35, le verset 30 à 35. Pour ces hommes, le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'avait pas exactement la même signification que le baptême de l'Esprit que l'on découvre dans le Nouveau Testament. Oui, bon à savoir, le baptême de l'Esprit dans le Nouveau Testament est un baptême lié à la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas le fait que les gens soient saisis du Saint-Esprit comme dans l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas la même signification, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même symbolique, ce n'est même pas le même type de puissance. Ce n'est même pas le même type de mandat. L'ancienne alliance est celle qu'a fondée Moïse. La nouvelle alliance est celle qu'a fondée Jésus-Christ. C'est bon de savoir ça. Sinon, vous avez dit que l'Esprit Saint est la même quantité et les mêmes travaux dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les mêmes mandats, les mêmes caractéristiques. Non. Les mandats sont différents, les alliances sont différentes. Donc, au niveau même opérationnel, c'est différent. Je vous dis quelque chose que certains doivent cerner. À cause de la nouvelle alliance, les prophètes après Jésus-Christ peuvent être plus puissants que ce que Jésus-Christ lui-même a montré. Vous comprenez ce que je dis là? Parce que Jésus-Christ a ouvert une alliance qui parfait améliore la relation à Dieu, la perfectionne au point où l'homme qui sait Dieu peut aller plus loin que tout ce que le Fils de Dieu lui-même a montré comme exemple. Jésus-Christ est parmi les multiples choses que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu perfectionner le service à Dieu. Puisqu'il a amené de la dimension matérielle à la dimension spirituelle. Il a amené dans la dimension spirituelle qui est la dimension source. Les manifestations de puissance doivent être beaucoup plus importantes. Les miracles doivent être beaucoup plus importants. Et pour sceller cela dans la parole, il a dit que ceux qui croiront en lui feront comme lui et bien plus encore. Parce que les gens vont venir vous dire que, mais c'est pas possible. Comment Jésus-Christ a fait un truc? Lui, il vient, il fait même plus. Mais il faut leur dire que mais c'est normal, c'est ce qu'il avait dit, non? C'est ce que la parole dit. Si Jésus-Christ a marché sur l'eau, c'est que nous aussi, on peut marcher sur l'eau. Après, on peut planer même comme Superman ou faire plus. Regardez un suivi qui est simple. Quel est le père spirituel d'Élisée? Je vais vous montrer quelque chose. Parce que c'est normal, certains ne comprennent pas. Je vais évoluer, je vais vous montrer trois cas. Élie a opéré 7 grands miracles. Son fils a demandé la double portion. Son fils spirituel. Élisée opère 13 miracles. Le 14e miracle, Élisée, il a accompli étant déjà mort. Lorsqu'on lance le corps du roi, et le corps du roi touche le squelette, le roi la ressuscite. Jésus a opéré des miracles. Vous avez entendu que Jésus-Christ faisait que si on frotte seulement les lames de celui, les gens guérissent. C'est parce qu'il ne pouvait pas faire ça. Il pouvait. Mais il avait un travail à faire. Montrer le chemin. Indiquer qu'il est le chemin. Qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Et maintenant, continuez, je suis avec vous. Paul, qui est le tout premier grand apôtre, après l'élévation de Jésus-Christ, opère un niveau de miracle que les disciples, les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ n'ont pas atteint. Paul était en mission, les pierres étaient encore vivants. Ils se connaissaient. Ils se sont rencontrés. Ils ont débattu de beaucoup de choses dans la marche avec Dieu. Mais Paul était à un niveau supérieur. Preuve qu'après Jésus-Christ, le service à Dieu est perfectionné. Il est amélioré en puissance, en qualité, en intensité, en densité. L'amen là, il a la grippe. Hein. Quand l'Esprit Saint me lance dans la démonstration comme ça, il faut nous encourager. Lui aussi, il a besoin d'encouragement, puisque c'est un esprit qui est sensible à tout ça. Il aime qu'on l'aime. Vous ne savez pas que Dieu a besoin d'être aimé. Donc, il n'y a que vous qui avez besoin d'être aimé. Secret des secrets. Dieu, je vous dis ça aujourd'hui, et n'oubliez jamais ça, n'oubliez jamais que je vous l'ai dit. Dieu aime qu'on le désire. Vous avez compris? Il aime être désiré. Il a besoin d'être aimé. Ouais, les gens, ils ne savent pas. Vous appelez ça ici quoi? Atalakou? Mais il faut faire l'atalakou à Dieu. Mais regardez le comportement humain que vous avez là, que quand quelqu'un te fait les louanges, tu es content. Vous croyez que lui n'a pas les mêmes sentiments que nous, on sort d'où? Si nous sommes à son image et à sa ressemblance, si on aime aussi les bonnes paroles, il aime ça. Ouais, moi aussi, je suis important. Oh, on m'aime aussi. Sauf qu'il est plus jaloux que nous tous. Preuve ultime justement du fait qu'il a besoin d'être aimé et qu'il veut être désiré. Qu'est-ce que vous croyez? L'Esprit, ça me montre le secret. Le secret de la repentance, là, c'est quoi? Dans la repentance, il y a une clé cachée là-dedans. Ce n'est pas seulement le fait de dire que vraiment, j'ai mal fait, je me détourne du péché. Il y a le fait de montrer à Dieu que tu le désires. Applaudissez d'abord pour l'Esprit. Qu'il me soit permis de vous mettre les points sur les i. Simplification. La relation à Dieu est une relation d'amour. écris ça en rouge dans ton bloc-notes. La relation à Dieu est une relation d'amour. Et les enfants, c'est... On ne vous a pas dit. C'est une relation d'amour. Oui, Michael.
Ce que le Père garde, c'est le fond de nos cœurs. Ce que le Père cherche, ce sont les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité.
Merci. Donc vous avez des exemples qui sont nombreux. Comment Dieu choisit des gens, il met son esprit dessus. Et sera. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit remplissait la puissance de certaines personnes qui étaient choisies en vue de services particuliers. On le voit dans Exode 3, le verset 9 à 10. L'Esprit du Seigneur est descendu sur plusieurs juges d'ailleurs, comme on l'appelle Othniel, Gédéon, Jephthé, Samson, etc. Donc vous allez voir dans tous ces passages, en lisant Juges, chapitre 14, verset 5 à 6, vous allez voir. Juge 6, vous allez voir. Juge 3, vous allez le voir. Juge 11, vous allez le voir dans le chapitre globalement. Ces exemples sont la démonstration du principe constant que Dieu suit. Lorsqu'il choisit un homme comme instrument pour sa gloire, il le revêt toujours de son esprit. Vous comprenez ce qu'il dit? Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu les a choisis, mais on ne sent pas Dieu chez eux. C'est quand même inquiétant. Hein? Si Dieu t'a choisi, on ne sent pas Dieu chez toi. C'est comme un pasteur. Laisse-moi d'abord, regarde, je fume d'abord un coup là. Hein? Tu quoi? Hein? Il faut se demander si l'Esprit Saint n'a pas encore combattu la cigarette chez lui. Bien, tu trouves un pasteur très concentré sur Black Le, quoi? Black Le, quoi? Ouais, ouais. Là, je suis Black Le Bel à un autre niveau. Tu lui demandes que je dise. Hein? Pasteur, est-ce que Saint-Anne n'a pas dit que le truc là, c'est un tueur d'onction? Ben oui. Vous voyez un homme de Dieu qui est en train de boire l'alcool, la brute, comme ça là. Il faut se poser des questions sérieuses sur son cas. L'alcool est un tueur d'esprit. L'attaque l'onction. Ah, vous ne le saviez pas. Donc, vous croyez que nous, on évite ça parce qu'on est. Oui, d'accord, ça m'a trouvé que je n'aime même pas la bière. Je trouve que la bière est amère. Étant plus jeune, ça fait au moins 15 ans, quand j'ai goûté la bière. Dis donc, c'est que là, n'est pas bon dans la bouche. J'ai forcé une, deux fois, il y a peut-être 10 ans même. Ça ne passait pas. Parce qu'il n'y avait pas l'eau. Peut-être de passer, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de jus. Il n'y avait que la bière, j'ai avalé la bière. C'est un tueur d'onction, vous ne pouvez pas grandir spirituellement en buvant la bière. Non, c'est pas possible. La bière s'attaque à l'esprit.
Merci,
je passe par là. Mais elle vous donne les secrets, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes les piliers de ce ministère.
Amen. Amen.
Voilà. Donc c'est comme ça. Il y avait également, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, cette conscience du fait que Dieu voulait conduire l'individu dans une vie droite et juste. David témoigne d'ailleurs de ça. Quand vous lisez le psaume 51, le psaume 143, vous voyez toujours qu'il y a une préoccupation là-dedans, particulièrement dans le 51 de 12 à 15, c'est la vie de justice, la droiture en Dieu. Le 143, verset 10, a aussi cette préoccupation. Et chaque fois, vous voyez, David demande à l'Esprit de Dieu de l'aider à être parfait. De façon synthétique, disons ça comme ça. Aide-moi à être parfait. Aide-moi à m'aligner selon tes voies. Et tu seras, c'est l'Esprit. On peut vous aller lire ça tranquillement. Tu veux avancer. Le peuple de Dieu qui suivait sa propre voix au lieu d'écouter les instruments divins, en fait, qui refusait de, en réalité de suivre la voix de l'Esprit, il a souvent vécu des tourments. On peut lire Genèse 16, le verset 2. Vous allez voir ça dans l'esprit de Genèse 16, verset 2. Ceux qui ne réussissaient pas à vivre selon l'Esprit de Dieu subissaient inévitablement une forme de jugement divin. Bon, si vous voulez voir ce genre d'esprit de jugement divin, Nombre 14, 29, Deutéronome 1, 26. Nombre 14, 29, Deutéronome 1, 26. Il faut aussi remarquer que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne descend et ne repose que sur certains individus, en rendant apte au service ou à la prophétie. On n'assiste jamais à une effusion de l'esprit sur l'ensemble du peuple. Pourquoi on vient maintenant sur la question de l'effusion de l'esprit? Parce que je veux finir mon propos par les promesses de pleine puissance de l'Esprit Saint. Mais il faudrait qu'on, avant de finir, qu'on voit quelque chose qui est prévu depuis l'Ancien Testament, mais que nous vivons déjà ici. Et ça va être une réplique que vous allez donner aux gens qui disent que l'Esprit de Dieu ne parle plus. Vous rencontrez beaucoup de gens qui disent que l'Esprit de Dieu parlait seulement à l'époque, n'est-ce pas? Voilà, il ne parle plus. Lisons ensemble Joël 2. Joël 2, le verset 28 à 29. Joël 2, verset 28 à 29. On peut même lire aussi Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. On peut aussi lire Acte 2, le verset 16 à 18. Donc, lisez les trois là. Joël 2, 28 à 29. Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 16 à 18. Mettez là où il y a le micro.
Joël 2, du verset 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen.
Amen. Ces jours-là qui sont les jours de la fin, Dieu dit qu'il répandra son esprit sur les jeunes, les vieillards. Les gens auront des songes et ils prophétiseront. Nous y sommes déjà. Vous n'avez pas les visions? Vous ne prophétisez pas? Pourquoi on vient vous dire que Dieu ne parle pas? Tenez bien la parole là, c'est un argument froid et dur, qu'on peut même retrouver dans le Nouveau Testament. Lisons d'abord l'esprit de Acte 2, verset 4, et ensuite Acte 2, verset 16 à 18. Oui, ma fille.
Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 16 à 18. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen.
Vous voyez que le contenu de Joël 2, le verset 28 à 29, revient à Actes des Apôtres 2, le verset 16 à 18. Vous avez donc des références bibliques pour contrer les gens qui vous disent que l'Esprit de Dieu ne parle plus. Quand vous avez des débats, parce que vous ne pouvez pas ne pas débattre, puisque vous êtes tous des évangélistes, d'une manière ou d'une autre, vous devez toujours avoir les références bibliques pour argumenter. On a lu un passage ici dernièrement qui disait qu'il faut évangéliser en tout temps, en tout lieu. Circonstances favorables ou... Hein, voilà. Il y a des gens qui vont dire que, dis donc, si Opele Makala, tu me racontes quoi? Ici, là, on ne parle pas de Jésus. Ah bon? Bien d'autres disent que, dis donc, ici, là, laissez-moi aller ma Guinness. Je ne vais pas parler de Jésus. Là où quelqu'un parle, argument que laisse-moi aller ma Guinness, tu lui sors Jésus, là, de Dieu. Là même, là où il parle de sa Guinness, tu lui dis que repends-toi. Il va te regarder comme ça, il dit que oui, j'ai dit que repends-toi. Dieu veut que tu sortes de la souffrance. Tant que tu ne vois pas que tu es en enfer, Dieu veut que tu sortes de la souffrance. Regarde les problèmes que tu as, les humiliations que tu subis, les déceptions. Tu ne veux pas, tu n'en as pas ras le bol de la vie là. Tant que tu sens que c'est là où tu devais être à l'heure, c'est là où tu es là. Ils sont souvent jeunes, mais déjà vidés. Tu les trouves assis là, ils ont rempli deux tables de bière. Les trois quarts des billets sont déjà vides et ils se sentent puissants. Leur puissance réside dans la quantité de bière qu'ils ont pu boire en 3 heures de temps. Je passais quelque part hier, je suis tombé sur des officiers de l'armée, dont un sous-officier. Il voit comment tout le monde se salue avec déférence, respect. Comme il est devant sa bière qu'il a rasée au quart, il me parle très fort. Entre-temps, je le regardais les yeux de l'esprit, que pauvre homme. Regarde là où tu es attaché. Il faut toujours évangéliser. Toujours. Et il faut toujours comprendre que l'Esprit de Dieu est avec vous. Nous sommes dans ce temps où Dieu a déjà répandu son Esprit sur toute chair. Et que cela s'accomplisse encore plus fortement dans ce ministère.
Amen.
Nous sommes dans la dernière partie de cet enseignement qui concerne la promesse de la pleine puissance de l'Esprit. L'Ancien Testament anticipe sur la venue de l'âge de l'Esprit, c'est-à-dire l'ère du Nouveau Testament. Premièrement, à plusieurs occasions, les prophètes ont annoncé le rôle que jouerait l'Esprit dans la vie du Messie à l'avenir. Nous avons déjà eu un enseignement ici sur Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Ésaïe a mis particulièrement en exergue le fait que le futur roi et serviteur de Dieu sera un homme sur lequel l'Esprit de Dieu reposerait d'une manière particulière. Et cela est vrai, vous avez lu ça, dans Ésaïe 61, verset 1 à 3. On a déjà lu ça. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Je peux vous ajouter une référence. Ésaïe 11, le verset 1 à 2. On reviendra là-dessus sur l'enseignement qui parle de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais vous donnez les références maintenant, c'est bien. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Ésaïe 42, verset 1. Quand Jésus-Christ a fait la lecture du texte d'Ésaïe 61, verset 1 à 3, dans la synagogue de Nazareth, son village, il termina par ces paroles. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous pouvez vérifier cela dans Luc 4, le verset 21. D'autres prophéties de l'Ancien Testament ont annoncé l'époque où l'effusion de l'Esprit serait répandue sur l'ensemble du peuple de Dieu. L'un des principaux textes est celui de Joël que nous venons de lire, Joël 2, versets 28 à 29, qui fut d'ailleurs cité par Pierre le jour de la Pentecôte. Pierre cite ce texte le jour de la Pentecôte, c'est Acte 2, le verset 17 à 18. Acte 2, le verset 17 à 18. On retrouve le même message dans Ésaïe. Ésaïe 32, le verset 15 à 17. Ésaïe 44, j'ai dit d'abord 32, 15 à 17. Ésaïe 44, le verset 3 à 5. Ésaïe 59, le verset 20 à 21. Et pratiquement, vous l'avez cherché dans Ézéchiel. Ézéchiel 11, le verset 19 à 20. Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. Ézéchiel 37, le verset 14. Donc, je relis tous ces passages. Ésaïe 31, le verset 15 à 17. Ésaïe 44, le verset 3 à 5. Ésaïe 59, le verset 20 à 21. Ézéchiel 11, le verset 19 à 20. Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. Ézéchiel 34, 37, le verset 14. Il y a même encore Ézéchiel 39, le verset 29. Donc Dieu a promis que lorsque la vie et la puissance de son esprit descendraient sur son peuple, il sera en mesure de prophétiser, d'avoir des visions et des songes. Des songes prophétiques, ce n'est pas des songes ordinaires. Avoir des visions et des songes prophétiques. De vivre dans l'obéissance, la sainteté et la justice. Et de témoigner avec une grande puissance. Ça, c'est ce que Dieu a prévu. C'est pourquoi vous faites des témoignages. Ainsi, les prophètes de l'Ancien Testament ont vu et annoncé l'âge messianique au cours duquel l'effusion et la plénitude du Saint-Esprit se répandraient sur toute l'humanité. Cet âge s'est manifesté le jour de la Pentecôte, soit 10 jours après l'ascension de Jésus, et a vu une moisson d'âmes particulièrement importante. Je voudrais qu'on se lève pour lire les derniers passages. Peut-on nous lire? On a lu ensemble déjà Joël 2 de 28 à 29. Est-ce que vous pouvez regarder toujours Joël là? Lisez 32 là-dedans. Joël 2, verset 32.
Joël 2, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen.
Amen. Très important de le savoir. Il n'y a pas que fusion de l'Esprit de Dieu. On a la grâce que celui qui l'appelle sera sauvé. Est-ce qu'on peut lire Acte 2, le verset 41 et Acte 4, le verset 4? Acte 2, 41, Acte 4, verset 4.
Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen.
Amen. Acte 4, le verset 4. Et Acte 13, le verset 44.
Acte 4, le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000.
Et lisez encore Acte 13, le verset 48 jusqu'à 49.
Acte 13, au verset 48 à 49. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Amen.
Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Que cette parole s'accomplisse maintenant.
Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie abondamment dans nos vies.
Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ remplisse nos cœurs de son Esprit Saint.
Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ remplisse nos vies de sa lumière.
Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ remplisse nos vies de son feu.
Amen.
Que le Père éternel se glorifie abondamment dans tous les compartiments de nos vies.
Amen.
Qu'il fasse descendre ici et maintenant une onction spéciale qui scelle cet enseignement dans nos cœurs et le rend vivant dans tous les compartiments de nos vies.
Amen.
Je bénis l'Éternel parce qu'il a décidé que ces enseignements aient lieu. Je bénis l'Éternel parce qu'il vous encourage chacun à venir. Je bénis l'Éternel parce que vous répondez à l'invitation du Père. Et je bénis l'Éternel parce que dans le silence, dans la discrétion, ici, maintenant et aujourd'hui, vous avez reçu encore et encore des bénédictions. Vous avez reçu des grâces spéciales. Vous avez reçu des onctions. Vous avez reçu d'autres niveaux de délivrance. Et vous avez reçu des solutions à des problèmes. Je bénis abondamment l'Éternel parce qu'il est en train de vous remplir. Plus il vous vide de ce qui n'est pas de lui, plus il vous remplit de ce qui est de lui. Et je bénis l'Éternel parce que nous avons la grâce de connaître l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, qui est le principal intercesseur, qui est celui qui nous enseigne à marcher avec Jésus-Christ, qui nous met dans la connexion à l'Esprit Saint, avec Jésus-Christ, qui nous met dans la connexion avec le Père éternel, à travers Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie.
Amen.
Je demande un chant pour la chorale. Après cela, on va faire juste l'offrande, les offrandes, pour dire merci à notre niveau, de notre façon au Seigneur pour l'enseignement d'aujourd'hui. Je recommande aussi de venir dimanche prochain avec les pochettes, parce que le Seigneur m'a montré clairement. J'étais même surpris. C'était quand ça? Avant-hier. Il m'a montré clairement que je peux faire les transferts d'onction avec n'importe quel instrument ordinaire. Pas nécessairement les mouchoirs. Donc, venez avec les mouchoirs. Ça va certainement faire grandir le ministère pour rentrer à la maison et que ces mouchoirs, vous pouvez les, puissiez les donner à des personnes qui n'ont pas de foi et qui voient comment les miracles s'opèrent dans leur vie. Et le Seigneur va se glorifier abondamment dans vos vies, partant de ces miracles, de ces guérisons qui vont s'opérer. Venez avec les mouchoirs au dimanche prochain. On va appliquer la parole de Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 11 à 12. Cela va vous aider, cela va aider le peuple de Dieu et cela va affermir votre propre foi. Je sais aujourd'hui, à cause des témoignages qui ont eu lieu samedi et dimanche, que beaucoup de gens ont commencé à se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'ils avaient loupé comme épisode. Donc, je veux d'abord un chant pour glorifier le Seigneur, le remercier pour cet enseignement. Après ça, on va faire les offrandes au Seigneur et se séparer. Bien entendu, je vais recevoir les quelques personnes qui veulent me voir.
Tu es le même, tu ne changes pas, tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu ne changes pas.
Attention sur les prochains enseignements. J'ai 10 titres comme ça que je vous donne. Ce n'est pas nécessaire de noter. Et c'est pour que vous compreniez à quel point ces enseignements sont importants. Depuis plus d'un mois, on enseigne sur Dieu. Et une chose est sûre, il est extrêmement difficile de trouver des enseignements. Extrêmement difficile. Par exemple, dimanche prochain, on va enseigner sur la puissance de Satan et les démons. C'est un enseignement pointu. Avec les dimensions de puissance qui y sont liées. Le mercredi qui va suivre, on va parler des attributs de Dieu. Le dimanche qui va suivre, on va parler de la paix de Dieu.
Le mercredi qui va suivre, on va parler de Christ dans l'Ancien Testament. Le dimanche qui va suivre, on va parler de la providence de Dieu. Le mercredi qui va suivre, on va parler de la paix de Dieu. Le dimanche qui suivra, le royaume de Dieu. Après, on parlera le mercredi, l'inspiration et l'autorité des Écritures. Le neuvième enseignement qu'on va enchaîner sera le dimanche, les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Et il y a un dixième enseignement, toujours dans cet enchaînement d'enseignement, la séparation spirituelle des croyants. Il y en a vraiment pour rendre paquet. Et lorsque le Père demande d'obéir et de prier, c'est parce qu'il s'est déjà rendu compte que vous recevez les enseignements. Maintenant, il faut affermir ça. Affermir en mettant en pratique ce que vous recevez. Et prier afin que la communication avec lui soit fluidifiée, que l'Esprit Saint vous nourrisse encore mieux qu'avant. Il y a des gens dans ce ministère qui m'inquiètent. Dieu leur a fait une promesse. La promesse est vraiment jouissive. C'est ce qu'il voulait. Soit un travail, soit un enfant, etc. Dès que ce qu'ils ont entendu de Dieu montre seulement la route, n'est pas encore arrivé. Il commence à faiblir. Propose que tu n'arrives à prier à minuit. Hein? Je suis motivé. Au lieu de prier, il m'appelle pour dire, prie pour moi. Je ne te vois pas. Pourquoi tu demandes que je prie pour toi? Donc toutes les personnes qui ont démissionné, il faut que je dédique tout. Qui était ici là-bas, à Juliette était ici, donc c'était Jean, que je prie pour les chercher. Je ne vais pas faire ça. Je connais le plan du Père éternel pour cette année-ci. Je ne vais pas aller chercher les gens. Les gens vont chercher l'envoyé, mais au-delà, ils vont chercher le ministère des Pères des Nations en Christ. C'est la seule option qu'il y a. Il n'y a pas d'autre option qu'on va aller faire la cour aux gens. On n'a pas de cour à faire aux gens. Nous, on fabrique la fondation, on la identifie, on les fait ici. Sauf qu'il y a un marabout qui, plus on est en train d'effacer la fondation, plus on est en train d'attirer les grâces et bénédictions sur vous, plus ils voient comment ils doivent tendre les pièges pour venir voter. J'ai un de mes fils qui n'est pas venu, je lui dis, mais j'ai ri parce qu'il m'a dit quelque chose en ce moment. Parmi les gens qui sont partis, il y en a beaucoup qui aiment tendre les pièges de l'autre. Le gars est comme ça, on l'appelle pour dire que nous, il faut qu'on se voit. Il dit que, non, on ne veut pas t'expliquer ça au téléphone, le sujet est trop délicat. Donc, ils ont encore conduit une affaire de sorcellerie qu'ils doivent raconter sur le ministère. Comme ils ont leurs espions, leurs interprétations et les anges des ténèbres qui leur fabriquent des prévisions. La vision, ça ne vient même pas de la route qui fait semblant d'aller vers Dieu. Le gars reste comme ça. Il ne veut pas partir. Sa femme lui dit que tant que j'essaie ces choses-là, tu ne vas nulle part. Sa femme voit d'abord l'une des personnes qui entre dans la barrière et un ange s'interpose et chasse la personne. Après lui-même, c'est la nuit alors que l'Esprit de Dieu là parle beaucoup. Il agit beaucoup. Il fait tout. L'Esprit